dans ce cinquième épisode de cette saison spéciale de Au cœur du chaos. Les quatre actes du Tao de la connerie ordinaire sont maintenant derrière nous. Nous avons entendu le projet commencer. Nous avons vu le chef chercher à tenir. Nous avons traversé le moment où le système commence à demander des explications. Et nous avons terminé sur cette paix étrange, presque trop calme, où tout semble compris, où tout semble à sa place, et où pourtant, quelque chose reste immobile, rien ne change. Cet épisode n'est pas un cinquième acte. Il n'ajoute pas une scène à l'opéra, il ne vient pas le corriger. Il ne vient pas non plus expliquer ce qu'il fallait comprendre. Il propose simplement de revenir sur ce que cette traversée nous a fait entendre. Non pas pour désigner un coupable, non pas pour dire « voilà ce qu'il aurait fallu faire », mais pour regarder la mécanique. Car le Tao ne juge pas, il montre. Et ce qu'il montre est souvent plus inconfortable qu'un jugement. Dans l'acte 1, tout commence comme commencent beaucoup de transformations. Il y a une intention, un projet, une ambition, une rupture annoncée. On veut innover, on veut changer les pratiques, on veut sortir des habitudes, on veut faire autrement. Et au début, tout cela semble légitime. Le problème n'est pas que l'intention soit mauvaise. C'est même l'un des pièges les plus constants des transformations. Elle commence souvent par de très bonnes intentions. Le chef ne dit pas oui parce qu'il veut détruire le projet. Il dit oui parce qu'il sait faire cela, les projets. Il sait prendre un enjeu, le nommer, le cadrer, le présenter, l'organiser. Mais dès le début, quelque chose accroche. Le projet n'est pas seulement un objet à piloter, il devient un révélateur. Il révèle les anciennes manières de voir, les réflexes de maîtrise, les besoins de preuve, les habitudes de protection, les écarts entre les mots et les moyens, entre la promesse de rupture et le confort du cadre. C'est là que l'opéra devient intéressant. Il ne raconte pas l'histoire d'un projet qui échoue parce que les gens seraient stupides. Il raconte l'histoire d'un système qui tente d'accueillir l'inconnu sans modifier les conditions qui rendent cet inconnu possible. On veut l'innovation, mais on lui demande d'entrer proprement dans les cases. On veut le futur, mais on exige qu'il soit prévisible. On veut l'audace, mais seulement si elle arrive avec ses garanties. Et déjà, la machine ordinaire commence à tourner. Dans l'acte 2, la focale se resserre. Nous entrons dans la voie intérieure du chef. Et c'est important parce qu'à ce moment-là, le chef cesse d'être une caricature. Il devient quelqu'un qui cherche à se rassurer. Il a senti les doutes, il a senti les peurs, il a senti la fatigue. Il a compris que tout cela était réel. Mais ressentir ne suffit pas à décider. Et décider sans comprendre fait peur. Alors il cherche des appuis, il cherche des chiffres, il cherche un objectif, il cherche une ligne. Il cherche une certitude qui puisse tenir quand l'avenir vacille. Et la phrase centrale de l'acte 2 pourrait être celle-ci. Je n'ai pas fui l'incertitude, je l'ai organisée. C'est probablement l'une des grandes mécaniques de la connerie ordinaire. Nous ne fuyons pas toujours ce qui nous fait peur. Parfois, nous l'organisons. Nous lui donnons des colonnes, des jalons, des indicateurs, des comités, des mots, des règles, des présentations. Et une fois que tout cela existe, nous pouvons nous dire que nous avançons. C'est pas faux, mais ce n'est pas nécessairement vrai. Il y a des moments où structurer aide à agir. Et il y a des moments où structurer sert surtout à ne plus sentir que l'on ne sait pas. La différence est mince, mais elle change tout. Dans l'acte 2, le chef tient. Il tient son rôle, il tient son image, il tient sa vision, il tient le contrôle. Et plus il tient, plus il se raidit. ce raidissement n'est pas seulement un défaut personnel, c'est une protection. Il protège l'idée que le chef doit savoir. Il protège l'idée que diriger, c'est tenir. Il protège l'idée que lâcher serait perdre. Perdre la face, perdre la main, perdre le cap, perdre la place. C'est là que murmure d'organisation permet d'écouter autrement. Le Tao montre le contrôle. Murmure écoute la peur protégée par le contrôle. Le Tao montre la rigidité. Murmure écoute ce que cette rigidité empêche de voir, mais aussi ce qu'elle tente d'empêcher de perdre. L'acte 3 change encore d'échelle. Nous ne sommes plus seulement dans la peau du chef, nous sommes dans le système. Et le système dit « quelque chose ne fonctionne plus ». Mais ce qui est remarquable, c'est que rien ne s'effondre. Les tableaux sont toujours là, les discours sont cohérents, les décisions semblent sous contrôle, les réunions continuent, les mots circulent. Simplement, le mouvement se fatigue. Et quand le mouvement se fatigue, le système cherche une explication. C'est humain, c'est normal, c'est même nécessaire parfois. Mais dans l'acte 3, la recherche d'explication devient progressivement une manière de protéger le cadre. D'abord on mesure l'écart, puis on cherche une cause, puis on localise, puis on désigne. Puis on dit « la méthode n'a pas été appliquée assez rigoureusement ». Alors on renforce, puis on formalise, et enfin on rassure. Chaque étape paraît rationnelle, c'est pour cela qu'elle est dangereuse. La connerie ordinaire ne ressemble pas toujours à une décision absurde. Elle ressemble souvent à une suite de décisions raisonnables, chacune défendable, chacune explicable, chacune prise au nom du sérieux. Mais mise bout à bout, ces décisions produisent l'inverse de ce qu'elles prétendent chercher. Elles éloignent du réel. L'écart aurait pu devenir une information. Il est devenu une anomalie. Le doute aurait pu ouvrir une enquête. Il est devenu une menace. La méthode aurait pu être interrogée. Elle est devenue sacrée. Le réel aurait pu enseigner. Mais il attend, dehors. Et l'organisation finit par traiter la résistance du réel comme une défaillance d'application des procédures habituelles. C'est l'un des points les plus importants de cette saison. Quand une méthode ne produit pas ce qu'on espère, il y a au moins deux possibilités. Soit la méthode a été mal appliquée, soit la méthode n'est pas adaptée à ce que le réel demande. Le Tao montre ce moment où l'on choisit trop vite la première hypothèse parce que la seconde coûterait beaucoup plus cher. Car si la méthode n'est pas adaptée, il faut peut-être revoir le cadre, revoir les rôles, revoir les décisions, revoir les critères de succès, revoir ce que l'on appelle « bien faire ». Et ça, un système le fait rarement spontanément. Il préfère souvent renforcer ce qu'il connaît déjà. Puis arrive l'acte 4. Et l'acte 4 est peut-être le plus cruel, précisément parce qu'il est le plus doux. Tout semble compris. On accepte l'incertitude, on reconnaît les limites, on parle de complexité, on cesse d'être brutal, on devient plus nuancé, on prend du recul, et on se dit que le Tao est partout. En apparence, c'est une maturation. Et parfois, c'en est vraiment une. Mais l'acte 4 montre autre chose. Il montre le moment où la compréhension devient suffisante. On a compris, donc on peut se calmer. On a compris, donc on peut se dire que le plus dur est fait. On a compris, donc on peut continuer, un peu plus humblement, mais en faisant comme avant. C'est une forme très raffinée d'immobilité. Non pas l'immobilité du refus, non pas l'immobilité de la mauvaise volonté, mais l'immobilité de la compréhension. C'est celle qui dit « Nous savons maintenant pourquoi nous ne changeons pas. » Et comme nous savons pourquoi, il devient moins urgent de changer. C'est terrible, et c'est très ordinaire. Car comprendre apaise, mais comprendre n'agit pas à notre place. Nommer une croyance ne la transforme pas nécessairement. Identifier un cercle vicieux ne suffit pas à en sortir. Parler du système ne déplace pas le système. C'est là que l'IRN devient essentielle. Elle ne fait pas de grands discours. Elle ne sauve pas l'organisation. Elle ne produit pas la synthèse finale. Elle ne gagne pas contre le Tao. Elle avance. Elle fait un pas. Un pas sans garantie, sans promesse, sans alibi. Un pas qui ne change pas le monde, mais qui change sa perception de l'environnement. Ce détail est décisif. Parce que l'opéra ne se termine pas vraiment par une solution. Il se termine par un contraste. D'un côté, le système retrouve une forme d'équilibre. De l'autre, quelqu'un cesse d'attendre le moment parfait. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas héroïque, ce n'est pas forcément visible. Et c'est peut-être là que commence une transformation réelle. Non pas dans la grande compréhension collective, mais dans un déplacement local que quelqu'un peut porter. Alors que nous montre cette saison ? Elle nous montre d'abord que la connerie ordinaire n'est pas l'inverse de l'intelligence. Elle peut être produite par l'intelligence, par la compétence, par l'expérience, par la volonté de bien faire, par le besoin de protéger, par le désir de ne pas perdre ce qui tient encore. Elle nous montre ensuite que les systèmes ne se défendent pas toujours contre le changement. Ils se défendent souvent contre ce que le changement menace. Une place, une relation, une image, une promesse passée, une manière d'être reconnu, une cohérence ancienne, un équilibre fragile. C'est là que le lien avec murmure d'organisation devient central. Le Tao montre la scène visible, les chiffres, les objectifs, les méthodes, les discours, les postures, les refrains. Murmure écoute ce qui se protège dessous. Les peurs, les croyances, les loyautés, les blessures, les fatigues, les formes anciennes de survie. Si l'on n'écoute que le Tao, on risque de dénoncer. Si l'on n'écoute que murmure, on risque de comprendre sans agir. Il faut écouter les deux. Voir la mécanique, écouter la mécanique et écouter la protection. Et ensuite seulement, décider du pas à faire. Pour les managers, les dirigeants, les équipes de transformation, cette saison pose donc une question très simple. Quand un changement bloque, que regardons-nous en premier ? Cherchons-nous un responsable ? Une méthode mal appliquée ? Un défaut de communication ? Un manque d'adhésion ? Une résistance culturelle ? Ou acceptons-nous de demander « Qu'est-ce que ce système protège en continuant ainsi ?» Cette question ne remplace pas l'action, elle la prépare. Parce qu'un changement qui ne comprend pas ce qu'il menace fabrique souvent sa propre résistance. Et un changement qui comprend trop bien sans décider finit parfois par transformer la lucidité en refuge. Le point délicat est donc là. Ne pas aller trop vite vers la solution, mais ne pas rester indéfiniment dans la compréhension. Définir le vrai problème, le formuler assez clairement pour qu'il puisse être partagé. Créer les conditions d'un travail commun, écouter les retours sans les réduire à des oppositions et décider, même modestement, du prochain pas réel. Pas forcément le plus ambitieux, le plus vrai, celui que l'on peut soutenir, celui qui ne demande pas au système de devenir autre en un jour, mais qui l'empêche de se raconter qu'il a changé parce qu'il a compris. Le Tao de la connerie ordinaire ne nous dit donc pas « voilà comment transformer une organisation ». Il dit plutôt « voilà comment une organisation peut neutraliser sa propre transformation, tout en parlant très bien de transformation ». Et ce n'est pas rien, car reconnaître cela, c'est déjà entendre un autre murmure. Un murmure moins confortable, celui qui dit « maintenant que nous avons compris, qu'allons-nous réellement déplacer ?» Dans le prochain épisode, nous ne reviendrons pas pour décrypter encore. Nous reviendrons vers le réel, vers ce que cette saison change dans notre manière de parler du chaos, de la transformation et de la décision. Non plus seulement dans l'opéra, mais dans nos organisations, dans nos pratiques, dans nos réunions, dans nos façons de tenir, et peut-être, parfois, dans notre manière de lâcher. Merci d'avoir traversé cette saison spéciale. Merci d'avoir écouté le Tao. Et peut-être aussi maintenant, d'entendre ce qui murmure dessous. À bientôt, dans Au cœur du chaos, pour le 6e et dernier épisode.